voulons-nous recueillir devant notre Père céleste. Comme nous sommes heureux d'être en ta présence, ô notre Dieu, en attendant réellement d'être dans ta maison, où ton Fils bien-aimé nous a préparé une place. Une place que nous occuperons et que tu nous auras donnée au prix de celui qui a laissé sa vie à Golgotha. Nous sommes conscients ce soir du prix que nous avons à tes yeux, ô notre Dieu, pour chacun de nous. Ton Fils a donné sa vie. Ce n'est pas avec de l'or, ce n'est pas avec de l'argent que nous avons été rachetés de nos péchés, de notre vaine manière de vivre, mais c'est avec la vie du seul juste, du seul saint, du seul être qui pouvait vraiment satisfaire ton cœur. Et comment pourrions-nous vivre pour quelqu'un d'autre que pour lui? Nous voulons te demander que ton esprit ce soir soit tellement puissant au milieu de nous qu'il captive nos cœurs et que désormais, dès ce soir, dès ce 12 juillet 1989, nous t'appartenions à jamais. Que tu sois vraiment notre Seigneur et que nous soyons ta possession. Oui, possède-nous, Seigneur, tout entier, par ton amour, et que nos coupes ce soir débordent du bonheur pour ta seule gloire. Amen. Oui, mes amis, nous sommes arrivés déjà au mercredi soir 12 juillet et nous poursuivons notre étude sur notre thème « Vous serez mes témoins ». Cette parole de Jésus ressuscité à ses disciples et qui s'adresse aussi à nous qui avons cru par le moyen des paroles et du témoignage des apôtres. Je voudrais que nous soyons conscients ce soir que Jésus, la nuit où il fut livré, a prié pour nous. Il vous voyait tous déjà réunis dans ce lieu. Vous aviez une place dans sa pensée et dans son cœur. Il vous connaissait par vos noms. Et il a dit, Père, ce n'est pas seulement pour les disciples qui sont là que je prie, mais c'est pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Et la parole des disciples, nous l'avons justement dans les actes des apôtres que nous sommes en train de lire et de méditer. Et si ce soir, nous croyons ces paroles des disciples, eh bien, la prière de Jésus, la prière qu'il a faite au jardin de Gethsémané, sera exaucée pour nous. C'est quelque chose de merveilleux. Et vous connaîtrez au plus profond de votre cœur ce que c'est l'amour de Jésus. Et pas des phrases, hein. C'est une réalité. Et Jésus disait, moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Vous croyez que le monde vous donne quelque chose? Vous croyez que vous ne pouvez pas vous passer du monde parce que c'est le monde qui donne de la joie? Bien, si vous saviez ce que Jésus donne. Oh, la paix que Jésus donne, dit un cantique. Je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Bien, nous soupirons pour que tous ici connaissent cette paix et que vos vies soient réellement transformées. Nous avons les chapitres 23 et 24 des Actes à considérer, soit 62 versets, puisqu'il y en a 35 dans le chapitre 23 et 24 dans le chapitre 27. Est-ce que quelqu'un a pu lire ces chapitres avant de venir? Alors, avec ces chapitres, nous allons entendre Paul parlant devant le Sanhédrin de Jérusalem. Vous vous souvenez qu'avant l'apôtre Paul, devant ce tribunal, deux fois, Pierre et Jean avaient dû comparaître. Puis, ce fut le tour de qui ? D'être devant le Sanhédrin pour être jugé ? Étienne, d'abord. Après Pierre et Jean, ce fut Étienne qui fut le premier martyr. Et maintenant, nous allons voir devant le Sanhédrin Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, mais qui se trouvait dans le Sanhédrin de l'autre côté alors, contre Étienne, quand Étienne fut jugé. Maintenant, c'est lui qui est en quelque sorte à la place de cet Étienne, témoin martyr. Et nous remarquerons que Paul a cru devoir employer son habileté naturelle pour créer une diversion devant ce tribunal. Et vous savez, ça peut nous arriver à tous. Même l'homme le plus spirituel, à certains moments de sa vie, quand il est dans une certaine situation, il pense qu'il a des moyens et qu'il est quand même assez habile, et il voit la situation et il dit, tiens, si je fais ceci, si je dis cela, eh bien, ça va créer une diversion. Et ça, c'est encore quelque chose de charnel. Et ce sont des choses que nous devons mettre entièrement de côté. Il ne faut jamais se croire en forme, et il ne faut jamais penser que on peut avoir même nos adversaires par notre habileté. Ce n'est pas vrai. Et l'habileté de Paul, tout ce qu'elle a provoqué, c'est qu'il n'a pas pu rendre témoignage. Il a rendu témoignage devant le peuple, comme on l'a vu ce matin, mais devant le Sanhédrin, pour avoir été trop habile, il n'a pas eu l'occasion de rendre témoignage. Et vous savez, c'est cela que nous révèle la parole. Elle ne nous révèle pas seulement les qualités exceptionnelles d'un homme de Dieu, mais elle nous montre aussi ses faiblesses. Et cela, vous avez à travers toute la Bible, dans l'Ancien Testament, les mêmes choses. Vous voyez un Élie sur le Carmel qui est courageux devant 400 prophètes de Baal et qui leur dit, qui dit au peuple réuni, si l'Éternel est Dieu, suivez-le, et si c'est Baal, courez après lui. Et qui invoque le nom du Seigneur, et le Seigneur fait tomber le feu du ciel sur le sacrifice qu'il a offert. Alors que les prêtres de Baal ont crié, ô Baal, réponds-nous, réponds-nous. Et il n'y a ni son ni voix à leur demande, alors qu'un seul cri d'Élie fait descendre le feu du ciel. Et puis ensuite, il est courageux et il dit, saisissez ces prophètes de Baal. Et on les saisit, et qu'est-ce qu'il fait? Il va les égorger au torrent du Kishon. Mais, quand Achab, le roi, retourne chez lui, et qu'il raconte à sa femme Jézabel ce qu'Élie a fait, cette femme furieuse fait envoyer une note expresse à Élie en lui disant, eh bien que les dieux me fassent et y ajoutent, si demain. Ton âme n'est pas comme celle des prophètes de Baal. Et que fait Élie? Il a peur. Lui qui était si courageux sur le Carmel, voici menacé par Jézabel, la femme qui se fardait outrageusement, la Marilyn Monroe de ce temps-là. Oui, parce que vous savez bien que Marilyn Monroe disait « Pour être Marilyn, il faut que je passe 8 heures à me pomponner. » Elle passait 8 heures par jour pour paraître Marilyn Monroe. Et quand je vois chez les jeunes gens et les jeunes filles, souvent, des posters de Marilyn dans leur chambre à coucher, je me dis, c'est ça leur inspiration? C'est ça leur idole? Nous sommes des idolâtres. Passer 8 heures à se farder, à se faire une beauté, à se repeindre la façade, en attendant qu'elle soit détruite. Quelle folie! Vous pouvez faire autre chose! Et si vous regardiez au Seigneur, ceux qui regardent vers lui sont rayonnants de joie, ils sont illuminés, et vous aurez une belle peau. Regardez un peu vers le Seigneur. Vous ne perdrez pas votre temps, et vous aurez des satisfactions. Et l'on vous fera des compliments sur votre beauté naturelle, et non pas cette beauté artificielle. Qu'avoir une femme au matin quand elle se lève, quel désastre souvent. Le soir, elles étaient pimpantes, puis le matin, c'est un décrépissage. C'est épouvantable. Alors il faut tout recommencer. Mais vous avez autre chose à faire. La vie, elle est trop courte pour passer 8 heures. Devant son miroir, que le Seigneur parle à nos cœurs. Je voudrais vous donner un idéal de vie qui soit réellement une réalité. Bien oui, Élie, le grand homme, a eu ses moments de faiblesse, puis s'est sauvé dans le désert et il s'est trouvé fatigué, il s'est couché sous un genêt, et qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères, prends mon âme. Il a voulu mourir. Et c'est ça. Voilà, on a les hauts, puis on a les bas. Puis on est tout à coup déprimé. Et c'est la grande déprime. Il faut que le Seigneur intervienne. Eh bien, l'apôtre Paul, il est un homme comme nous, aux mêmes passions que nous, comme Élie. Et il a eu aussi ses moments de faiblesse. Nous allons voir dans le texte, en le lisant, comme nous faisons d'habitude, quelle a été cette faiblesse. Et alors, à cause de son intervention à Paul, le tribun a dû de nouveau sortir Paul du Sanhédrin pour éviter qu'il soit tué. Pendant qu'il était dans la forteresse, un complot alors fut découvert par le neveu de Paul, comme nous allons le voir. Le tribun fut mis au courant et il prit la décision de transférer secrètement l'apôtre à Césarée. Et il écrivit une lettre d'explication à Félix pour accuser Paul devant les autorités romaines. Et Paul eut alors l'occasion à Césarée de présenter sa plaidoirie, mais il ne fut pas libéré, mais put jouir en prison d'un régime plus libéral jusqu'à la fin du mandat de Félix, qui fut remplacé par Festus. Ce sont là les événements que nous devons considérer ce soir dans notre lecture. Mais comme nous le faisons habituellement, nous allons très brièvement résumer ce qui nous a occupé ce matin. Ce matin, nous avons lu les chapitres 21 et 22 des Actes. Et il s'agissait du voyage de Paul de Milet, où il avait parlé aux anciens d'Éphèse, à Jérusalem. Par mer, et après avoir changé de navire à Patara, comme nous l'avons lu, Paul et ses compagnons sont arrivés à Tyre, ville de Syrie, où le navire devait laisser son chargement. Et avant de reprendre la mer à Tyre pour aller à Césarée, nous avons assisté ce matin à une scène bien touchante. Vous vous souvenez? Les hommes et les femmes de Tyre, avec qui? Avec leurs enfants, ont accompagné Paul et ses compagnons, et là, avant de se séparer, ils se sont tous mis à genoux sur le rivage, et puis ils ont prié avant de se séparer. Voilà pourquoi, quand on doit se séparer, on aime prier. C'est un exemple qui nous a été donné. Avant une séparation, on aime s'agenouiller et prier. Et quand Paul est arrivé à Césarée, chez qui est-il allé loger? Chez un inconnu? Non. Chez Philippe, l'évangéliste, qui avait combien de filles? 4. Est-ce qu'elles menaient la vie? Non. Elles étaient prophétesses et elles étaient liées. Et vous savez, je voudrais vous dire une chose qui m'a souvent surpris. Il y a des jeunes filles qui ont eu des chutes, qui sont tombées et qui ne sont plus vierges. Alors elles nous disent, mais à quoi ça sert? Puis de toute façon, quand je me marierai, je ne serai pas une vierge, ben je continue. Bien, je voudrais vous en supplier, n'ayez pas ce raisonnement. Vous n'êtes peut-être plus vierge, c'est vrai. Mais si vous vous donnez à Jésus, Dieu peut vous redonner une vraie virginité. Et ça, vous pouvez le croire. Ce n'est pas nécessaire de dire, ben, moi, parce que je ne suis plus vierge, eh bien, de toute façon, c'est fini, eh bien, je continue. Non, oh mes amis, le Seigneur vous aime comme vous êtes. Vous vous souvenez qu'il est dit que les prostituées et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Et Marie-Madeleine, qui elle aussi avait mené la grande vie, eh bien, quand elle s'est donnée au Seigneur, il n'y en a pas eu une comme elle. Le Seigneur en a fait son ami. Et vous savez, avoir pour ami le Seigneur, c'est quelque chose. Et c'est à elle, à cette femme Madeleine, qu'il est apparu ressuscité en premier lieu. Et qu'il lui a donné ce merveilleux message. Va, dis à mes frères, je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu, vers mon Père, qui est aussi votre Père. Vous savez, on entend des raisonnements. J'ai entendu des jeunes gens qui m'ont dit, mais vous savez, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'avais convoité une femme, une camarade, une copine. Je l'avais convoité dans mon cœur. Alors, je lis dans la Bible que quand on a convoité une jeune fille ou une femme, on a déjà commis adultère dans son cœur. Alors, ça ne faisait pas plus de coucher avec elle. Hein? Puisque j'avais commis adultère dans mon cœur, si je couche avec elle, c'est pas plus grave. De toute façon, je suis un adultère. Et voilà les raisonnements qu'on a, et on prend même des versets bibliques, des paroles de Jésus, pour justifier une voie qui n'est pas la bonne, et où on aura toute espèce de misère. Alors, mes amis, dites-vous que tout peut finir à la croix, et que tout peut commencer, et il peut vous redonner une vraie jeunesse. C'est ce que je crois, et j'ai vu dans mon ministère des personnes qui ont suivi cette parole. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Elles voulaient se suicider, hein. Elles en étaient arrivées là à se dire, ben maintenant pour moi, il n'y a plus d'espérance, je n'ai plus qu'à me suicider. Eh bien, oui, c'est dans le chapitre 33 de Job. Il est dit que on en arrive vers les messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un entre mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui. Et il dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et qui est la rançon du pécheur? C'est Jésus. Et alors, qu'est-ce qu'il arrive au pécheur qui accepte la rançon que Dieu lui donne? Sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. C'est vrai de vrai, cela. Et il y a quelques mois, j'ai vu une personne pleurer quand elle a lu ce verset et qui lui a redonné espoir, courage et beauté. Sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Dieu lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Le plus beau miroir, c'est le Seigneur. Et quand on se regarde dans ce miroir-là, on lui ressemble. Et un seul regard sur Jésus peut nous transformer. Et il est dit, verset 27, il chante, lui qui était désespéré et qui voulait mourir, il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice, je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entra pas dans la fosse et ma vie s'épanouit dans la lumière. Oh mes amis, c'est cela que je souhaite pour tous, qui que vous soyez, quelles que soient vos pensées, quelle que soit votre situation, que nos vies à nous, la mienne avec vous, puissent s'épanouir dans la lumière. Voilà ce que nous suggère ce verset qui nous montre que Philippe avait des enfants, des filles, qui marchaient dans le Seigneur. Et enfin, nous les avons vus arriver à Jérusalem. Et c'est là que Paul a cru devoir suivre le conseil de Jacques, qui était un des anciens de Jérusalem, qui lui a dit, va au temple, paye pour les vœux de 4 jeunes qui ont cru devoir faire un vœu, et si tu payes pour eux, si tu te purifies avec eux, eh bien, il n'y aura pas de dispute à Jérusalem, tout le monde croira que tu es quand même encore un bon juif tout en étant un croyant. Et Paul a suivi, peut-être par faiblesse, mais aussi en se disant, eh bien oui, peut-être que j'aurai plus de succès comme cela, si c'est le contraire qui s'est produit. Ce qui nous montre toujours que nous devons rester nous-mêmes et suivre le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. D'autres peuvent faire autrement, mais vous n'avez pas à regarder à ce que les autres font, vous devez être convaincu vous-même. Et alors, il y a eu tumulte dans le temple parce que des Juifs venant d'Asie avaient vu Paul en Asie et l'ont dénoncé et ont dit que c'était un homme qui troublait le monde. Et alors, ils ont crié, qui est avec nous? Et ils ont voulu tuer Paul. Et c'est là qu'est intervenu le tribun romain qui a sauvé Paul par la force, et qui a voulu l'emmener dans la forteresse. Mais sur les degrés de la forteresse, Paul avait demandé au tribun, est-ce que tu me permets de m'adresser à cette foule? Et le tribun, en entendant que Paul parlait le grec, lui a dit, tu sais le grec? Oui, il savait le grec. Mais il était encore plus surpris quand il a entendu Paul s'exprimer au peuple juif en langue hébraïque. Et c'est cela que nous avons vu. Et là, Paul a eu une occasion merveilleuse de rendre témoignage. Et si vous voulez prendre ce chapitre 22, je vous en supplie, pour moi, il a été une clé dans mon ministère. Et en priant tout à l'heure, je me suis souvenu que j'étais à Paris en 1938, dans une grande salle, il y avait 500 personnes, c'était un dimanche après-midi, et le Saint-Esprit m'a possédé ce jour-là. J'étais encore bien jeune, j'étais pas marié, mais je prêchais en France. Et là, quand j'étais si jeune, eh bien, j'ai dû me lever dans cette ville de Paris, au milieu de gens qui étaient professeurs à la Sorbonne et ailleurs, et saisi par l'esprit, j'ai apporté ce message d'Ananias à Paul. Quand Paul nous dit que Ananias est venu le trouver alors qu'il était dans la prière, dans une chambre de cet homme qu'il avait reçu à Damas, et Ananias lui dit, le Dieu de mon père t'a choisi d'avance pour connaître sa volonté, pour voir le juste et entendre les paroles de sa bouche, et tu seras son témoin. Eh bien, je me souviens que j'avais apporté ce message, et je me souviens aussi d'une chose qui m'avait bouleversé, un homme avec une grande barbe, qui était l'ingénieur qui avait aidé Eiffel à construire la tour Eiffel, était là, il m'a pris dans ses bras, il m'a serré sur son cœur, et il m'a embrassé en me disant de continuer. Moi qui étais si jeune, j'avais 21 ans à ce moment-là, et il m'a donné le baiser de paix et m'a encouragé à continuer. Et un autre qui était médecin à Paris m'a dit qu'il m'encourageait à publier une brochure qui est ici. La première que j'avais écrite quand j'avais 18 ans, après ma maladie à l'hôpital, un message de Dieu pour les hommes. Et c'est eux qui l'ont fait imprimer à Chalon-sur-Saône. Bien oui, c'est des souvenirs que nous avons ça. Mais c'est la parole de Dieu. Et voyez-vous, en relisant ces textes, je me disais, ils ont toujours la même force, ils ont toujours la même valeur, ils ont toujours la même puissance. Qu'est-ce que Paul, Saul de Tarse, qui venait de se convertir, qui était là, à genoux, aveugle, et qui se demandait quel allait être son avenir, qu'est-ce qu'il a entendu? Un homme qui venait, qui lui mettait les mains sur la tête, et qui lui disait, « Saul, mon frère, le Seigneur m'a envoyé vers toi pour que tu recouvres la vie, et pour te dire qu'il t'a choisi d'avant, pour connaître sa volonté. Et Paul, justement, est devenu un spécialiste de la volonté de Dieu. Alors qu'on entend si souvent les gens dire, comme c'est difficile de connaître la volonté de Dieu. Si vous êtes au Seigneur, si vous avez donné son cœur au Seigneur, vous êtes choisi justement pour cela. Ça ne doit plus être une difficulté. La difficulté pour nous, souvent, c'est d'obéir. Mais le Seigneur nous révèle sa volonté. Et très souvent, on dit, Seigneur, révèle-moi ta volonté. On la connaît, on sait très bien ce qu'on devrait faire. Et quand on prie, c'est simplement pour lui dire, je voudrais que ça se passe autrement. C'est au fond ça, on n'est pas compétent. Alors, demandons au Seigneur, donne-moi la force pour faire ce que toi, tu veux que je fasse. Et si vous priez ainsi, vous savez qu'il vous donnera la force. Vous êtes choisi pour connaître la volonté de Dieu. Pour voir le juste, c'est sur lui que vous devez avoir les yeux et vous aurez cette beauté, vous aurez cet attrait que les âmes verront en vous. Vous attirerez les âmes vers le Seigneur. Votre vie fera aimer le Seigneur aux âmes. Ça vaut la peine. Et puis, vous entendrez les paroles de sa bouche. Vous serez de ces vies qui sont visitées par le ciel. Vous entendrez dans votre cœur des messages venant du sanctuaire, venant d'en haut. Vous pouvez être sûr de cela. Et alors, on a écouté l'apôtre Paul, comme on l'a vu ce matin, on l'a écouté jusqu'à quel moment? Jusqu'à ce qu'il parle des païens. Quand il dit, voilà, j'étais un jour à Jérusalem après ma conversion, et puis j'ai vu le Seigneur, dans le temple, qui m'a dit, maintenant, que tardes-tu? Hein? Ton message ne sera pas reçu dans cette ville, va vers les païens, hein? Vers qui je t'envoie. Et alors là, ça a été le déchaînement, et c'est à ce moment-là que le Romain a enlevé Paul définitivement pour l'emmener à la forteresse. Puis, comme il était troublé au sujet, mais qu'est-ce qu'ils ont contre ce Paul ? Il a dit, nous allons le soumettre à la question. Et puis, qu'est-ce que c'était soumettre à la question ? C'était le battre jusqu'à ce qu'il avoue son crime. Mais à ce moment-là, Paul a dit, il vous est permis de battre un Romain ? Je suis Romain. Alors, le tribun ayant su cela, il a eu peur et on ne l'a pas battu. Et le tribun a décidé, bien voilà ce que je ferai, on va descendre demain au Sanhédrin, et là, au Sanhédrin, eh bien, on interrogera Paul, et puis je saurai bien ce qu'il a fait et ce que les Juifs ont contre lui. Alors, vous voyez, on arrive au verset 30, maintenant, nous allons reprendre, mais j'aime bien resituer ce que nous avons vu et vous redire encore une fois, si vous voulez avoir un modèle de témoignage, savoir comment il faut rendre témoignage, apprenez par cœur le chapitre 22, quand Paul rend témoignage. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit les choses qui lui sont arrivées. Voilà ce que j'étais avant, j'ai été conduit, j'ai été instruit par Gamaliel, mais j'étais fanatique, je persécutais les chrétiens, puis un jour, sur le chemin de Damas, bien voilà ce qui m'est arrivé. Et ce sont des faits contrôlables. Et puis, il raconte comment, à Damas, il a reçu ses premières instructions de cet Ananias, qui était un croyant de Damas. Il ne faut pas confondre cet Ananias avec celui dont il est question ici, ou au chapitre 23, ou celui qui est mort au chapitre 5 du livre des Actes. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent s'appeler Ananias, comme il y a plusieurs Jean, comme il y a plusieurs Paul, comme il y a plusieurs René, André, et tout ce que vous voulez. Alors, verset 23. Donc, je lis déjà depuis le verset 30 du chapitre 22. Vous avez vos Bibles, alors vous suivez pour que ça entre par vos yeux et par vos oreilles. Verset 30 du chapitre 23. Le lendemain, donc. Qu'est-ce que j'ai dit ? Chapitre 22, oui. Verset 30. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin, donc c'est le tribunal juif de Jérusalem, de se réunir. Puis, faisant descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux. Alors, vous voyez bien la scène, hein ? Le tribunal est réuni, et puis on a mis Paul au milieu d'eux. Et alors, regardez, Paul les regarde fixé sur le Sanhédrin. Il y a des choses qui me sont données au fur et à mesure. J'ai pensé à Étienne, quand il était devant le Sanhédrin. Qu'est-ce qui s'est passé pour Étienne ? Il est dit au verset 15, n'est-ce pas ? Quand on a amené Étienne devant le Sanhédrin, il est dit au verset 15, tous ceux qui siégeaient, c'était qui ? C'est le Sanhédrin, hein? Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur qui ? Sur Étienne. Et son visage leur parut comme celui d'un ange. Les yeux d'Étienne étaient fixés sur qui ? Pour que son visage ressemble à celui d'un ange ? Sur Jésus, n'est-ce pas ? Les yeux d'Étienne était fixé du bon côté. Lui regardait Jésus. Et alors, le tribunal regardait Étienne. Et qu'est-ce qu'il voyait déjà dans Étienne ? Le resplendissement d'un ange. C'est quelque chose, ça. Tandis que, regardez l'apôtre Paul. Paul, les regards fixés sur qui ? Sur le Sanhédrin. Et c'est toujours ce qui nous arrive. Et c'est là une de nos faiblesses, hein. Nous fixons les regards sur nos ennemis, hein, sur le Sanhédrin. Et alors, dès qu'on a les yeux fixés sur nos ennemis, on ne voit plus clair. Hein. On voit trouble. C'est une chose qui est certaine. Et j'en ai fait ma propre expérience. Je ne dois pas regarder le visage de ceux qui s'opposent à moi, de ceux qui sont contre moi. J'ai toujours à regarder le visage de Jésus. Pour que ceux qui s'opposent à moi voient quelque chose de Jésus. Parce que si je les regarde, je commence à leur ressembler. C'est vrai ou c'est faux? Méditez là-dessus. Si vous regardez ceux qui s'opposent à vous, vous commencez par leur ressembler. Vous pouvez chanter « Te ressembler Jésus », etc., tout ce que vous voulez, mais vous ne lui ressemblez pas. Souvenez-vous de cela. Et faites ce petit voyage du chapitre 6, n'est-ce pas, où vous voyez Étienne devant le Sanhédrin, les yeux fixés sur Jésus. Et c'est le Sanhédrin qui le regarde. Mais là, c'est Paul qui a les regards fixés sur le Sanhédrin et qui leur dit « Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Il se sent en bonne forme hein, et il peut leur dire « J'ai bonne conscience, je suis devant vous, mais j'y suis. Hein, et, j'ai bonne conscience. Hein. » Ah, c'est dangereux. C'est vrai de vrai, mes amis. Et je vous en parle par expérience. Verset 2. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Parce que le souverain sacrificateur s'est rendu compte que cet homme était trop sûr de lui. Hein. Et quand on se présente tout gonflé de nos bons sentiments, de notre bonne justice, de la vérité de notre cause, eh bien, on fait l'effet contraire. Alors, évidemment, le souverain sacrificateur commande à quelqu'un de le frapper sur la bouche. Et alors, Paul, qu'est-ce qu'il dit? Dieu te frappera, paroi blanchie. Misère. Est-ce qu'on traite le juge suprême de paroi blanchie? On a eu tout à l'heure, là, dans notre petit amusement hein, de l'après-midi avec les jugements, on a eu un petit peu cette atmosphère. Hein. On peut injurier très facilement le juge. Et alors, c'est quelque chose de terrible. Vous voyez que même dans nos moments de distraction, Dieu supervise. Il sait aussi jouer avec nous, le Seigneur. Et c'est ça qui est tellement merveilleux. Et alors, on voit que tout correspond et que tout nous prépare. Alors, Paul dit, Dieu te frappera paroi blanchie. Pourquoi est-ce qu'il a dit paroi blanchie? Qu'est-ce que vous croyez qu'il avait? Mais moi, je suis une paroi blanchie, ou enfin, disons, un plafond blanchi. On pourrait dire, Dieu te frappera plafond blanchi. Hein. Mais paroi blanchie, qu'est-ce que c'est? Il avait une barbe. Alors, sa barbe, ça faisait comme une paroi, hein. Ça glissait devant, alors, mais elle était toute blanche, donc c'était un vieillard. Et Paul, de loin, ben, il a vu du blanc. Et puis, comme il a entendu qu'une voix sortait de ce blanc, il lui a crié, Dieu te frappera par voix blanche. Parce qu'il était dans son droit, Paul. Et puis, on n'avait pas à le frapper ainsi. Tu es assis pour me juger selon la loi. Et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. C'est vrai que le juge n'avait pas à faire cela. Alors ceux qui étaient près de lui, lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Alors ça ne ressemble pas à Paul, hein, de s'être laissé aller à insulter le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur. Ben, pourquoi est-ce qu'il ne savait pas? Ben, il a pensé que c'était une personne du tribunal, peut-être de loin, hein, parce que quand vous avez une cinquantaine de personnes rassemblées, et puis qu'on entend une voix, il n'a pas réalisé que c'était le souverain sacrificateur. Alors il s'excuse, car il dit, il sait très bien qu'il est dit dans l'Écriture, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Mais enfin, il s'est laissé aller à une expression comme ça, regrettable. Vous savez, Jésus, lui, le lundi de la semaine où il a été crucifié le vendredi, mais le lundi, il a fait un discours incroyable. C'est le chapitre 23 hein, de Matthieu. Et après un discours pareil, vous pouviez être sûr qu'il allait être crucifié. Il a parlé des chefs, hein, mais ça c'était Jésus. Et il a dit que les pharisiens, c'était des... Il a employé cinq mots pour les qualifier. Hein. Il a commencé, pharisiens, hypocrites. Hein. C'est pas drôle, quand on s'est envoyé là. Tu n'es qu'un hypocrite. Pharisiens, hypocrites. Puis après, qu'est-ce qu'il leur a dit? Fou. Puis ensuite, aveugle. Puis pas encore. Sépulcre blanchi, vous comprenez? Alors, Paul, connaissant ces expressions, sachant que Jésus avait dit des pharisiens qu'ils étaient des sépulcres blanchis, il l'a identifié à ça, puis il a pris au fond une parole de Jésus, mais Jésus pouvait la dire, cette parole. Mais peut-être que moi, je ne peux pas la dire. Comprenez-vous? C'est là ce que nous devons bien saisir. Et il faut dépendre du Seigneur. Alors, il dit, Dieu te frappera par voie blanchie. Et qu'est-ce que Jésus a dit encore? Serpent, race de vipère. Il a dit cela de ses chefs religieux, mais ça c'était Jésus. Mais vous pouvez être sûr qu'après il allait être crucifié. Hein, parce que quand on traite les autorités religieuses de cette manière-là, eh bien, on n'échappe pas. Alors verset 6, donc Paul a essayé de s'excuser. Mais tout d'un coup, il se rend compte, et c'est là qu'il a cru employer une certaine finesse, Paul sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin. Et c'est là hein, qu'il a employé en quelque sorte une parole qui allait les diviser. Il y avait pour les juger deux clans. Les pharisiens... Et lui, il était pharisien d'origine, c'était la secte la plus exacte de la tradition des pères, ils étaient très orthodoxes, ils croyaient à toutes les écritures, tandis que les sadducéens, c'était aussi des gens religieux, mais libéraux, hein, qui ne croyaient pas aux esprits, qui ne croyaient pas à la résurrection d'entre les morts, qui ne croyaient pas aux anges, et alors il y avait toujours rivalité entre les pharisiens et entre les sadducéens. C'est comme si vous preniez deux partis politiques, hein. Moi je ne fais pas de politique, mais disons les libéraux d'un côté, et puis les autres, comment on les appelle, les conservateurs, hein. Et alors on veut jouer entre les deux pour les mettre, pour qu'ils se brouillent, hein. Ils doivent juger quelque chose, mais on veut qu'ils se brouillent. Alors voilà ce que Paul a fait. Sachant qu'il y avait deux partis, donc pharisiens et sadducéens, il dit, homme frère, je suis pharisien. Cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. C'était très fin, mais c'est une finesse charnelle. Quand il eut dit cela, il s'éleva alors une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, mais c'est ce qu'il avait cherché au fond. Alors on n'allait plus tellement s'occuper de Paul, mais on allait se bagarrer entre pharisiens et sadducéens. Est-ce que c'est à cela que le Seigneur nous appelle? À amener les gens à se bagarrer? Non. Alors vous voyez que même une faute de Paul nous enseigne à nous ce que nous ne devons pas faire. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit nous a rappelé cela. Car les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, qu'il n'existe ni ange, ni esprit, contrôlez bien si ce que je dis est vrai, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur. Et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent, nous ne trouvons aucun mal en cet homme, peut-être un esprit ou un ange lui aurait-il parlé. Alors, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui prend la défense de Paul, comme il y a eu Pilate qui a dit aux Juifs, je ne trouve aucun crime en Jésus, et sa femme lui avait envoyé un message, n'ayez rien à faire avec ce juste, car j'ai eu un rêve, c'est fini, et voilà. Verset 10, comme la discorde allait croissant, c'est ce qui est arrivé, le tribun, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ses gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Alors, le message de Paul au Sanhédrin, il n'a pas pu le donner. Hein? Pourquoi? À cause de cette erreur-là. Là, la nuit suivante, alors c'est quand même parce qu'il a dû sentir tout cela. Et on a un moment de découragement quand on a fait une bêtise comme serviteur de Dieu, hein, ça nous arrive. Puis on est vraiment écrasé. Et puis on pourrait se décourager. Mais alors le Seigneur est tellement bon pour ses serviteurs qui s'attendent à lui que la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit, prends courage. Vous voyez, le Seigneur ne nous fait pas des reproches, même si on n'a pas été à la hauteur de la situation. Tandis que chez les hommes, quand on n'a pas été à la hauteur de la situation, il y a tout de suite des reproches. On est déjà découragé, et puis on vient encore nous donner le dernier coup de pique pour qu'on s'effondre. Car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage de moi dans Rome. Alors il a la confirmation du Seigneur qu'il ne va pas rester à Jérusalem, mais qu'il ira jusqu'à Rome. Alors on l'a ramené à la forteresse, donc, et c'est là que le Seigneur l'a visité. Verset 12. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot. Alors on arrive à ce fameux complot. Ils firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant, donc, que nous soyons maudits si nous ne tenons pas parole. Ils ont prononcé une malédiction contre eux, des imprécations, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Et s'ils ne le tuaient pas, eh bien, leurs imprécations retombaient sur eux. Hein. Puis, quand on ne mange pas et qu'on ne boit pas, ils mourront. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40. C'est quelque chose. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, comme Judas l'avait fait autrefois, hein, auxquels ils dirent, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. C'est exactement des choses comme ça qui se passent encore, hein, avec l'ayatollah Khomeini et tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui s'étaient engagés pour aller tuer le type qui a écrit les versets sataniques en Angleterre, hein. Et Khomeini avait dit, la flèche est déjà partie, depuis la Perse. Mais c'est lui qui est mort le premier. Vous voyez, parce que Dieu supervise, il est au-dessus de tout cela. Mais les menaces sont là. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner la cause plus exactement. Vous voyez, c'est tout un piège, une machination qu'on a tendue. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Ils vont se mettre en embuscade sur le chemin, et quand le convoi amenant Paul au Sanhédrin passera, qu'est-ce qu'ils feront? Ils feront sauter leurs bombes, d'une façon ou d'une autre. Même s'ils n'avaient pas de bombes ce temps-là. Mais ils assassineront Paul. Mais le fils de la sœur de Paul, donc vous voyez que Paul avait une sœur à Jérusalem. Alors le fils de la sœur de Paul, qu'est-ce qu'il était pour Paul? Son neveu. Ayant eu connaissance du guet-apens, parce que c'est un guet-apens, il alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit, mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. Et le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit, le prisonnier Paul m'a appelé et m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Alors vous voyez, il y a un témoignage, hein. Il faut être fidèle là. Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda, qu'as-tu à m'annoncer? Il répondit, les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils l'aient tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. le trigor renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela deux centeniers et dit « Tenez prêt dès la troisième heure de la nuit, c'est quelle heure ? 9h du soir, hein ? Dès la troisième heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. » Ça faisait combien d'hommes ? 470, vous rendez-vous compte, pour déplacer un homme de nuit. Et il prend des grands moyens, hein. Et il les a. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. Donc on a pourvu à son voyage. Il écrivit une lettre ainsi conçue. Alors c'est intéressant de lire les lettres qu'on écrivait de ce temps-là. Claude Lysias, qui est donc le tribun à Jérusalem, au très excellent gouverneur Félix, salut. Félix est celui qui avait succédé bien après Pilate, n'est-ce pas, à Pilate. Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis, écrit-il, allait être tué par eux lorsque je survins avec des soldats et le leur enlever, ayant appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel il l'accusait, je l'amenai devant leur Sanhédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui méritât la mort ou la prison. Donc c'est déjà un témoignage qui innocente Paul. Pas coupable. Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé, en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils eussent à s'adresser eux-mêmes à toi, à Dieu. Voilà une lettre écrite dans ce temps-là. C'est clair, c'est net. Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit. Et c'est ce que j'ai raconté aux enfants ce soir. Hein. Une nuit de l'apôtre Paul. C'est pas drôle les nuits de l'apôtre Paul, hein. Une nuit, il est descendu dans une corbeille de Damas. Une autre nuit, il est en prison à Philippe. Il chante des cantiques à minuit, il y a un tremblement de terre. Une autre nuit, eh bien, il prêche au troisième étage de Troas. Et puis, un gars tombe par la fenêtre parce qu'il s'endort pendant la réunion. Il est mort. Donc, les nuits de l'apôtre Paul ne sont pas des nuits semblable au nôtre, hein. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans ces nuits-là. Et puis, une certaine nuit, il est sur un navire qui va sombrer. Et le Seigneur le visite dans la nuit, sur la mer, et sur un navire qui coule. C'est merveilleux d'être avec le Seigneur. Il ne sommeille, ni ne dort, celui qui garde Israël, celui qui vous garde. Alors, verset 32, le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, donc les soldats sont retournés à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Ayant appris qu'il était de la Cilicie, « Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus, et il ordonna qu'on le gardât dans le prétoire d'Hérode. » Hérode avait fait construire cette ville de Césarée en l'honneur des Romains. Et là, on arrive à notre chapitre 24, il n'y a pas de difficulté. 5 jours après, donc l'arrivée de Paul, Saint-Sauf, arriva le souverain sacrificateur Ananias, la paroi blanchie, hein, s'est déplacé avec les anciens et un orateur nommé Tertulle. Et ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. Alors, voilà, si vous voulez savoir le langage des avocats de ce temps-là, vous n'avez qu'à lire ce passage. « Très excellent Félix, tu nous as fait jouir d'une paix profonde. » Quelle bande de menteurs n'est pas, c'est un juif, cet avocat. Et puis, on souffre du joug des Romains. Alors, on n'aime pas les Romains, mais quand il est question de les flatter, on les flatte. Hein. Alors, vous voyez, cette hypocrisie. Tu nous as fait jouir d'une paix profonde. J'ai trouvé la paix profonde. Hein. Un vrai cantique. Très excellent, Félix. Tu nous as fait jouir d'une paix profonde. Et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est de la flatterie. Hein. Et malheur à moi si je flatte les gens. Hein. Ma langue, disait Job, ne s'est pas flattée. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout, en demandeur, avec une entière gratitude. Ils voulaient tout le temps se soulever, hein, les Juifs, contre les Romains. Et ils osent dire qu'ils reconnaissent partout, en tout temps, les bienfaits de Rome. Mais pour ne pas te retenir davantage, parce que vous voyez, il ne veut pas faire un long discours, et il est correct, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Alors souvenez-vous hein, que nous avons toujours essayé de parler en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste. Bon, il est contagieux. Qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde. Qui est chef de la secte des Nazaréens. Parce qu'on appelait Jésus, Jésus de Nazareth. Et qui même a tenté de profaner le temple. Vous voyez qu'on y va fort, et ce n'est pas vrai. Et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu le juger selon notre loi. Et qu'est-ce qui serait arrivé si on l'avait jugé selon leur loi? Il était lapidé. Hein. Mais le tribun Lysias, étant survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs se joignirent à l'accusation, soutenant que les choses étaient ainsi. Voilà, il y a les témoins. Hein. On a vu tout ça ce matin, cet après-midi. Verset 10. Après que le gouverneur lui fait signe de parler, Paul répond. Sachant que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver, parce que vous voyez, c'est toujours ces preuves, hein, il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes, c'est-à-dire que tout n'est pas fini par la mort. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Parce qu'il y a une vie par-delà la mort. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes, c'est-à-dire apporter de l'argent à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence, et de porter accusation s'ils avaient quelque chose contre moi, ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, pour quelle raison? Parce que sa femme était juive. Hein? Alors, il avait une certaine connaissance. Il les ajourna en disant, « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Et qu'est-ce qu'il y avait à Césarée comme personne qui pouvait le connaître? Où avait-il logé quand il s'était arrêté à Césarée? Chez Philippe, qui avait 4 filles. Et il y avait donc une église à Césarée. Alors, les gens de cette église pouvaient aller visiter Paul en prison, puisque l'ordre avait été donné de ne pas empêcher les siens, c'est-à-dire ceux de la famille de la foi, de le visiter. Verset 24. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, c'était le nom de sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul, et il l'entendit sur la foi au Christ. Il s'est dit, bien, ce Paul, hein, il peut peut-être m'apprendre quelque chose sur le Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi, car je trouverai l'occasion. Quand je trouverai l'occasion, je te rappellerai. Parce qu'il se sentait un peu jugé. Il lui a parlé de la justice, il lui a parlé de la tempérance. Or, ces juges, qu'est-ce qu'ils aimaient bien? Le vin, il n'y avait pas la bière là-bas, ou Molson, mais enfin, et il y avait quand même bien de l'alcool, et alors, ils n'étaient pas toujours tempérants. Hein. Alors, quand on leur parle de tempérance, leur conscience leur parlait. Et puis, du jugement, ben, le jugement, on aime mieux ne pas y penser. Et puis, il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Vous voyez que c'est toujours l'argent. Qu'est-ce qu'il pensait qu'on lui donnerait? Comment est-ce qu'on appelle ça? Un pot de vin, si vous voulez. Mais pour avoir la libération d'otages, une caution, hein? Et puis, il pensait que peut-être, puisqu'il y avait une église à Césarée, que les gens de Césarée feraient une collecte pour qu'on libère Paul. Est-ce qu'ils ont fait une collecte pour libérer Paul? Est-ce qu'ils ont fait un appel d'argent par toutes les églises en disant, voilà, notre Paul est en prison, il faut le libérer. Si on apporte de l'argent à Félix, eh bien, il sera libre. Est-ce que c'est ça notre tâche? Non. Et Paul n'aurait jamais voulu ça. Mais aujourd'hui, on est toujours poussé à faire cela, parce qu'on a des appels d'argent de tous les côtés, et si vous donnez de l'argent, vous libérerez telle ou telle personne. C'est avec le Seigneur que nous avons affaire. Et Félix n'avait pas le droit de faire ça, hein. Mais vous voyez comme on est corrompu, hein, même dans les hautes sphères. Et alors, il espérait qu'on lui donnerait de l'argent, et il l'envoyait chercher assez fréquemment, et s'entretenait avec lui. Et pendant combien de temps? Verset 27. 2 ans s'écoulèrent, et Félix eut pour successeur Porcius Festus, et dans le désir de plaire aux Juifs, c'est toujours ça, Félix, qui aurait pu libérer Paul, le laissa en prison. Voilà. Voilà la justice des hommes. Voilà ce que sont les hommes. Pilate, voulant plaire aux foules, libra Jésus pour être crucifié. Quand on lui a dit, si tu le libères, tu n'es pas un ami de César. Alors il a eu peur. Voilà les portraits des hommes. Vous voyez combien on se retrouve avec nos faiblesses. C'est ça la lecture biblique. J'espère que je vous en dis pas trop encore une fois. Mais j'essaye de vous montrer comment nous pouvons nous nourrir de la parole, l'appliquer à nos cœurs et nous dire, dans telle circonstance, c'est pas ainsi que ça. Dieu notre Père, à l'issue de cette rencontre, nous voulons encore une fois te bénir et te demander que dans les veilles de cette nuit, tu nous rappelles ce que nous avons lu, que ta parole ait autorité sur nos cœurs et que ton dessein bienveillant pour chacune de nos vies s'accomplisse. Nous te confions chaque âme dans son sommeil, cette nuit, et nous croyons que tu veux agir et que demain matin, nos cœurs seront plus disposés à t'écouter, pour te suivre et pour t'aimer, sans espoir de retour. Amen.